Bonjour, je m'appelle Stéphane et je suis conducteur de bus. Et je passe ma ligne à vous écouter toute la matinée et toute l'après-midi. Donc je vous félicite vraiment pour la qualité de France Inter, quoi. Je suis un pauvre militant de gauche, on va dire, et j'ai un peu de réconfort quand j'écoute France Inter, parce qu'avec TF1, Antenne 2 et tous les médias corrompus de droite, hein, enfin de droite corrompus par le pouvoir sarkozien, vous êtes encore un des meilleurs radios de la part des FM, je pense. Voilà. Donc je vous félicite, quoi, pour le contenu de vos émissions qui est intègre et vous dites la vérité, c'est très bien. Voilà, encore un merci, hein. Salut, ciao.
Bonjour Daniel, bonjour équipe de Daniel. En ce jour du 11 septembre, j'aimerais qu'on fasse non pas une minute de silence parce que ça serait amputer votre émission, qui est déjà pas assez longue à mon goût, mais peut-être 15 ou 30 secondes, à la mémoire du 11 septembre 1973, le jour où le président Salvador Allende, qui rêvait de tolérance et de générosité, a été assassiné sur ordre de la CIA. J'aimerais aussi qu'on ait une pensée pour les morts de Srebrenica, où tant de Bosniaques, peut-être entre 7500 et 8000, selon les chiffres de l'ONU, ont été massacrés. Mais on en parle si peu. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a des morts qui pèsent beaucoup plus lourd que les autres. Même mort, il n'y a aucune égalité entre les hommes. Et ça, jusqu'à mon dernier souffle, ça sera pour moi une grande douleur. Voilà, continuez surtout, ne changez rien.
Bonjour Daniel, bonjour vous tous. Il y a 34 ans, un mardi 11 septembre, commençait le coup d'État au Chili. Nous n'avons pas oublié. Nous ne voulons pas l'oublier devant la déferlante sur le 11 septembre 2001. C'était horrible à New York, mais personne ne pourra oublier combien c'était horrible pour nous et pour la démocratie, ce qui Pinochet, ses sbires, avec ses alliés de la CIA, les États-Unis, ont fait au Chili. Des milliers de morts, des prisonniers, des torturés, des disparus, des exilés, des familles entières, divisées, partagées, séparées, anéanties. Nous ne pouvons pas oublier ni Allende, ni tous ceux qui sont tombés pour essayer de garder un peu de liberté pour un peuple. À bientôt.
Un nouveau 11 septembre, jour consacré désormais qu'on va devoir tous passer en famille à pleurer sur les ruines du World Trade Center. Les journaux télévisés vont certainement pas manquer de nous rappeler le tragique des tours écroulées, des innocents disparus à grand renfort d'envoyés spéciaux. C'est curieux, mais l'11 septembre, le plus tragique de l'histoire récente, ça reste quand même l'11 septembre 73 au Chili, qui fera tomber le premier gouvernement socialiste démocratiquement élu, coup d'État qui mettra au pouvoir l'épouvantail Pinochet et fomenté par la CIA. Suivant les chiffres, il y aura autour de 5000 morts et disparus. Je me demande si on verra aujourd'hui sur les écrans des envoyés spéciaux à la Villa Grimaldi à Santiago du Chili où des centaines de personnes ont été torturées il y a 44 ans de cela. J'en doute fort en fait. Petit point historique, le grand stratège et démocrate Henry Kissinger, le plus grand commis de la CIA dans la mise en place de la dictature au Chili, sera récompensé cette même année 73 par un prix Nobel de la paix pour ses bons et loyaux services. Il a été récemment convoqué par la justice française pour répondre à certaines questions concernant ses fonctions à l'époque auxquelles le gouvernement US a répondu qu'un homme qui a fait ses preuves pour promouvoir la paix n'a pas à se plier à des accusations si odieuses. Nota, Kissinger est sorti de sa retraite pour conseiller Bush dans la manière adéquate de tuer des innocents en Irak. On ne s'étonnera pas non plus que Noriega, dont la France a demandé l'extradition, est protégé par certains juges aux États-Unis qui font barrage à la procédure. Nota, Noriega est un ancien de la CIA. C'est bizarre tout de même, après avoir appuyé la mise en place de dictatures pendant pratiquement 30 années à la fin du XXe siècle, le gouvernement des États-Unis actuel, tout au moins, réussirait presque à faire croire au reste du monde qu'il va consacrer le 21e à répandre la démocratie, lui qui a tant d'expérience en la matière. Une petite anecdote toute fraîche. Hier, ma compagne qui est chilienne et dont on aime généralement l'accent charmant s'est encore vue demander par une commerçante où se trouvait ce beau pays qu'est le Chili.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe et à tous les auditeurs de Là-bas si j'y suis. Pour ce 11 septembre 2007, en souvenir de Salvador Allende, J'aimerais partager avec vous une petite chanson de Victor Jara, un chanteur populaire chilien qui fut arrêté au lendemain du coup d'état militaire. Figure emblématique de l'Unidad Popular, il fut torturé jusqu'à la mort au stade municipal de Santiago qui porte aujourd'hui son nom. Voici donc une de ses chansons pleines d'humanité et de liberté.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él.
They say that Allende committed suicide and is dead now.
Entendido, perfectamente, cambio.
L'impérialisme est un système où l'économique et les militaires sont indissociables. Au Chili, les États-Unis ont imposé un modèle économique ultralibéral dans un pays soumis à la dictature. Je me souviens de mon beau-père toujours en train de lire, d'écrire, travailler. Il s'était engagé aux côtés de Salvador Allende depuis 1958. Je n'ai jamais oublié qu'il m'avait dit très tôt que la CIA et les États-Unis s'est préparé à détruire leurs rêves.
En 15 minutes, le président des États-Unis a décidé de sacrifier la démocratie au Chili. Il aura suffi d'une réunion de 15 minutes.
Mon beau-père s'est suicidé vers 13 heures, juste après les premiers bombardements de l'aviation contre les palais présidentiels. Allende l'a fait quelques minutes plus tard.
Et Benoît, à l'avenir, sera-t-il de bon sens de soutenir le développement des cellules embryonnaires ou d'être pèlerin à Lourdes ?
Merci pour vos messages, chers auditeurs modestes et géniaux. Beaucoup, beaucoup de messages aujourd'hui. Aujourd'hui, on continue deuxième volet de la mondialisation, de la finance contre l'industrie. Ma mondialisation, c'est un documentaire que vous pourrez voir sur Arte ce jeudi à 22h35. Et c'est un documentaire de Gilles Perret. Pourquoi s'intéresser à ce documentaire ? Eh bien, c'est s'intéresser, ça revient à s'intéresser à la dictature de l'actionnaire, ou plutôt à la financiarisation de l'économie, qui est la ruine de l'industrie. On va vous expliquer ça, on a commencé hier, on va essayer de continuer aujourd'hui. C'est pas quelque chose de nouveau, ce qu'on va vous dire, mais là, on va voir comment c'est vécu. On disait hier, voir la mer dans une goutte d'eau, c'est-à-dire à partir de la vie dans cette vallée de Haute-Savoie, consacrée au décolletage, comment les entreprises, les petites entreprises ou de moyennes, peu à peu sont astreintes à délocalisés, sont astreintes à licencier sous la pression des actionnaires. Auparavant, je voudrais vous parler d'une affaire, ou plus d'un procès qui nous préoccupe et qui nous intéresse beaucoup à la base. Si vous connaissez le site Bella Ciao, si vous baladez un petit peu sur le net, et vous savez sans doute qu'une plainte en diffamation a été déposée contre le responsable de ce site Bella Ciao, une plainte déposée par les chantiers de l'Atlantique. Pourquoi ? Parce qu'en septembre 2005, le site Bella Ciao a diffusé un communiqué de l'Union syndicale CGT de Saint-Nazaire. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce communiqué de l'Union syndicale CGT de Saint-Nazaire ? Eh bien, il était intitulé « La flibusterie des temps modernes » et on y dénonçait les conditions de travail et de rémunération des salariés polonais employés en sous-traitance sur les chantiers de construction navale. Ça suffit pour que les chantiers poursuivent donc en diffamation le responsable de ce site. Et l'audience a lieu actuellement même à Saint-Nazaire. On est persuadé, étant donné l'intérêt qu'il y a eu, souvenez-vous, il y a quelques mois, au procès des caricatures où l'éloge de la liberté d'expression dans la presse a été fait d'une façon formidable, avec une éloge l'éloge de l'insubordination par celui qui allait devenir le président de la République, l'insubordination, eh bien, on pense que tous ceux qui sont attachés à la liberté d'expression vont soutenir les animateurs, enfin l'animateur du site Bella Ciao. Pour comprendre un peu mieux, on a joint par téléphone un certain nombre de personnes et de mouvements qui soutiennent Bella Ciao, notamment le représentant du SNJ-CGT, Syndicat National des Journalistes CGT, le représentant local de la CGT, et peut-être, si on a le temps, l'avocat de Bella Ciao. Jean-François Théaldi, vous êtes secrétaire général adjoint de SNJ-CGT, Syndicat National des Journalistes. Vous êtes aujourd'hui à Saint-Nazaire pour soutenir Roberto Ferrario du site Bella Ciao. Est-ce que vous voulez nous expliquer ce qui s'est passé et ce qui se passe ?
Écoutez, ce qui se passe, c'est très simple. Le site Bella Ciao s'est contenté de relayer en 2005 un tract de l'Union syndicale des chantiers de Saint-Nazaire qui dénonçait les pratiques de patrons voyous, assimilables à des pratiques de négriers, que pratiquaient donc les sous-traitants travaillant pour Alstom sur les chantiers de Saint-Nazaire, employant des ouvriers polonais sans droit, ne reconnaissant pas du tout l'application du Code du Travail ou des conventions collectives. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est le collectif Bella Ciao ou directement l'USM-CGT de Saint-Nazaire qui a mis le tract sur le site, puisque le site est totalement libre d'accès sans aucun contrôle a priori. Et suite à la publication de ce tract, sans commentaire, sans avoir modifié quoi que ce soit, trois mois plus tard, sans que la direction des chantiers d'Alstom ne se manifeste auprès du site pour demander soit un droit de réponse, soit le retrait de certains passages qu'ils estiment diffamatoires, un des animateurs du collectif Bella Ciao se retrouve mis en examen, poursuivi par les chantiers de Saint-Nazaire et mis en examen pour diffamation publique envers une personne privée.
Donc, aujourd'hui, SNJ-CGT proteste contre quoi ? Pourquoi ?
Alors écoutez, il n'y a pas que le SNJ-CGT, puisque le site Bella Ciao et Roberto Ferrario, donc, qui est mis en examen et nominé, est défendu à la fois par la CGT, par la Confédération, qui a publié un communiqué de soutien en demandant que cette criminalisation de l'action syndicale et de la liberté d'expression s'arrête et que Roberto Ferrario ne soit pas sanctionné. Il y a également l'Union départementale de Loire-Atlantique, l'Union locale de Saint-Nazaire, le Syndicat national des jours CGT, et ce matin nous avons également reçu un communiqué de soutien de la Ligue des droits de l'homme, et nous disons tous qu'il y a d'une part la criminalisation de l'action syndicale, mais d'autre part une atteinte intolérable à la liberté d'expression. Pourquoi on s'attaque à ce site-là alors que, en préparant cette journée, on est allé sur le net, il y a plus de 100 sites qui ont publié des communiqués, des papiers employant les mêmes termes à propos d'Alstom, les traitant de voyous, de négriers, d'exploiteurs, y compris le site des jeunes de l'UMP. Et le seul qui est aujourd'hui poursuivi par Alstom, c'est vrai que le site qui a à peu près 50 000 visites par jour est un des plus importants sites de l'expression altermondialiste, et on se pose la question de savoir si, à travers le site Bella Ciao, ce n'est pas en fait toute la pensée qui ne se coule pas dans le moule, qui n'est pas une pensée aux ordres, qui est visée à la fois par Alstom, à la fois, malheureusement, on peut le regretter, par la justice, et on se demande qui manipule derrière.
André Fadak, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Alors, je suis André Fada, donc secrétaire général de l'Union syndicale du multiprofessionnel CGT du chantier naval de Saint-Nazaire.
D'accord. Vous êtes à l'origine de ce communiqué, le fameux communiqué qui est visé ?
Alors, notre organisation, l'USM-CGT, qui est la structure qui regroupe tous les salariés de la sous-traitance, les intérimaires, les travailleurs étrangers, les salariés des chantiers, assume pleinement ce communiqué.
Qui voulait dire quoi ? Qui disait quoi ?
Ce communiqué avait pour but de soutenir des travailleurs polonais qui étaient en grève, qui réclamaient le paiement de leur salaire. Ça s'est passé en septembre 2005. C'est une succession de conflits, de luttes de différentes nationalités, parce que la caractéristique sur ce site, c'est essentiellement la précarité, mais aussi par rapport aux travailleurs étrangers, le fait qu'ils les font venir, et après avoir pressé le citron, on les jette, on les renvoie au pays sans les payer. Donc à un moment donné, il y a un certain nombre de salariés, des Indiens à l'époque du Queen Mary 2, des Roumains aussi, des travailleurs portugais. Et en 2005, toute l'année 2005, il y a eu plusieurs conflits de travailleurs polonais. Donc dans ce but, pour soutenir la lutte, on avait sorti un communiqué de presse pour dénoncer les méthodes mafieuses qui existent sur ce site.
Ça c'était en 2005, est-ce qu'aujourd'hui, alors, en 2007 ça continue ?
Rien que cet été, là, il y a eu deux conflits de travailleurs grecs dans deux boîtes différentes pour des situations similaires, c'est-à-dire amplitude horaire au-delà des 55-60 heures par semaine, salaire non versé, ils avaient des grosses difficultés aussi pour se nourrir et aussi dénoncer que les conditions d'hébergement. Pour une des entreprises, les Grecs étaient entassés à 3 sur 8 mètres carrés. Quoi.
Alors, vous parlez de la criminalisation de l'action syndicale. Est-ce que c'est pas un peu fort, criminalisation ?
On constate une volonté féroce du MEDEF, du patronat, mais aussi de ses acolytes, hein, et donc du gouvernement, d'attaquer toute manifestation, toute expression syndicale. Ça, comment on peut l'affirmer ? Ben déjà dans les entreprises. Si on prend le cas des entreprises sous-traitantes, dans les petites entreprises et les moyennes entreprises, il y a des attaques très forte contre les militants syndicaux, contre les délégués syndicaux. Sur Saint-Nazaire concrètement, on a plusieurs délégués dans les boîtes sous-traitantes. L'un, il est frappé de convocation devant la juge d'instruction dans les prochaines semaines pour une éventuelle mise en examen suite à une grève qui date de l'année dernière. On a d'autres militants qui sont mis au placard ou qui sont envoyés hors du chantier en déplacement pour qu'ils soient pas en contact avec les salariés. Bon, c'est vrai que c'est pas un fait nouveau, hein. Ça date depuis plusieurs années, hein. même avant que la droite soit au pouvoir, déjà ça existait ce genre de situation. Et justement, à l'époque, rien n'avait été fait pour stopper les agissements patronaux. Et voilà, et on se retrouve dans une situation aujourd'hui encore plus difficile et encore plus dure. Mais quand même, on résiste et les gens s'organisent.
William Bourdon, vous êtes avocat, c'est vous l'avocat de Roberto Ferrario. Comment vous voyez cette affaire ?
Écoutez, sans excès de confiance, je la vois plutôt de façon sereine, car d'abord il y a un moyen juridique qui me paraît très sérieux, et qui tient au fait que sur Roberto Ferrario ne pesait aucune espèce d'obligation de contrôle a priori des messages qui spontanément et sans intervention de sa part venaient alimenter le forum. La loi a pris en compte l'espace de liberté énorme qu'est Internet et donc n'impose pas à ceux qui en sont, y compris dans une structure informelle comme le site Belliaccio, un contrôle a priori. Ce qu'il faut relever, c'est que les chantiers, en l'espèce, avaient la possibilité, avaient le devoir, si vraiment ils étaient fâchés, de la diffusion de ce communiqué CGT, avaient l'obligation de mettre en demeure le site Belliaccio pour les contraindre, le cas échéant, à retirer cette publication. Cette abstention est fautive, et je pense que le tribunal devra en tirer les conséquences. Alors, plus généralement, c'est un site citoyen, c'est un site irrévérencieux, c'est un site qui s'oppose à toutes les formes de pensée unique et sectaire, c'est un site qui veut donner la parole à ceux sont l'expression même de la défense des droits des travailleurs et au-delà des droits des citoyens. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est absolument constante et unanime. Il y a un droit tout à fait maintenant acquis à une forme d'outrance dès lors qu'on s'inscrit dans la polémique syndicale. Or ici, cette polémique, elle doit être proportionnée au caractère extrêmement aigu des conflits sociaux qui affectent les chantiers depuis des années et à la violation systématique et répétée par les chantiers de l'Atlantique du droit du travail ici à Saint-Nazaire.
Alors, on a eu récemment le procès retentissant des caricatures au cours duquel on a lu une lettre du président de la République qui faisait l'éloge de l'insubordination. Est-ce que vous allez faire un lien entre, puisqu'il s'agit finalement de liberté d'expression, entre le procès des caricatures et celui-ci ?
On peut faire une référence au procès des caricatures. On n'a pas de lettre de M. Sarkozy avec Metzner dans notre poche. On ne lui a pas demandé. Je ne suis pas sûr qu'il nous l'ait donné, d'ailleurs, si on lui avait demandé. Mais en tous les cas, l'hommage fait par le président de la République à la liberté d'expression et au devoir d'irrévérence et d'insubordination, effectivement, peut-être une référence utile pour le tribunal. On va lui proposer.
Bon, merci beaucoup, William.
Je vous en prie. Au revoir.
Au revoir.
Le décolletage, cela représente 8000 personnes hautement qualifiées réparties sur 35 km entre Cluses et Annemasse. Petite, moyenne et déjà grosse entreprise s'y côtoient pour le plus grand bien de tous.
Et tout ça, c'est du décolletage. Hein.
Ah là, là, il y a un peu de découpage. Tout ça, c'est du décolletage. Là.
C'est incroyable, cette concentration, quand même.
Ah, mais on est la première concentration mondiale dans le monde. Hein. Sur un 30 km, vous avez 500 entreprises de décolletage.
Cette industrie représente pour la Haute-Savoie une ressource économique des plus appréciables, mais si vous le permettez, tout d'abord...
Décolletage, ça évoque pas grand-chose. Est-ce que vous pourriez nous dire...
Ah, ben, on commence. Dans ma montre, les axes de pivot, les pignons... Les lunettes, vous avez les petites vis qui vous tiennent vos lunettes, c'est du décolletage. Le micro, le support du micro, il y a de la pièce de décolletage. C'est fait dans la vallée.
5000 tonnes de métaux ferreux ou précieux traités en 1970, 65% de la production française, tel est le bilan du décolletage.
Le casque aussi, ouais, c'est fait dans la vallée.
Héritier de grandes traditions, la modestie des décolleteurs leur joue peut-être un mauvais tour. Et pourtant, ils n'ont rien à envier sur le plan technique à leurs rivaux étrangers.
Mais il y a quand même... Je pense un petit motif d'inquiétude.
En 3 ans, le numéro 1 du décolletage, il est repris par des financiers, on va dire. Ouais, en 3 ans, il est dézingué aussi.
Il est déglingué. Un groupe suisse reprend Jean Perret, c'est mort. Ces grosses boîtes qui ont été rachetées par des financiers, ils ont détruit, à ce que je connais, hein, 1300 emplois. Ils s'en foutent. C'est des requins, si vous voulez.
Salut, c'est Daniel Mermel, ah ben si j'y suis, avec François Ruffin, la mondialisation heureuse.
Flight number 2, arriving from New
York. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont tout retiré, l'argent tout de suite, puis ils ont coulé. C'est-à-dire, on pompe sur l'entreprise, évidemment, après ça résiste pas. Hein. Dans le fond, je crois qu'ils n'avaient pas de grande vue, même s'ils coulaient après, c'était pas leur... je pense que c'était pas leur problème.
Eux, c'est du résultat tout de suite, et ils s'en foutent, ils foutent le camp, ils s'en foutent des salariés et tout.
Le MEDEF devrait se dire, surtout ne licencions pas chez Y, parce que demain, je vais licencier chez X. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression de dire, ah, vas-y, Y, vas-y, licencie, tu te porteras bien mieux, et X suivra ton exemple. Moi, ça me désole.
C'est le capitalisme pur et dur, hein, là. On vient, on vide l'entreprise, on dégage les salariés, alors ils traitent des chiffres. Hein. Ils ne voient pas la conséquence humaine à côté.
Qui parle? Qui vient de parler? Des licenciés, des syndicalistes, des militants politiques d'extrême gauche? Pas du tout, du tout, du tout. Ce sont des patrons. Ce sont les patrons, parmi les patrons de cette vallée, celle de Larve, près de Cluse. Les chiffres de ce document qui date de le milieu des années 70 n'ont pas beaucoup changé. Sur 30 kilomètres, on opère là à 67% du décolletage français. Vous savez ce que c'est maintenant le décolletage, on vient de vous l'expliquer. 522 entreprises, 10 000 salariés. Alors bon, 1300 emplois supprimés, c'est beaucoup. Enfin, c'est pas encore aussi dramatique que ce que j'évoquais tout à l'heure. Sauf qu'il y a ce petit motif d'inquiétude, un petit motif d'inquiétude que beaucoup ont vécu, de plus en plus nombreux en France vivent, et pas seulement les salariés, mais un certain nombre de patrons, de petits patrons ou de moins petits patrons, qui voient leur entreprise fermée. Avec le motif suivant, fermeture pour objectif de rentabilité non atteint. Fermeture pour objectif de rentabilité non atteint. Et c'est ce qui est en train de gagner. Ça fait un bout de temps que ça dure déjà. Hein. Mais ça gagne. Alors on nous a présenté cette mondialisation libérale, globalisation, etc. comme une fatalité, même comme une modernité à laquelle il était indispensable de s'adapter. C'était ça, c'est ce qu'on nous dit à longueur de temps, s'adapter au crever, etc. Sauf que tout ça, bah, après tout, ce ne sont que des idées. Il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a rien de mécanique là-dedans, en tous les cas, rien de mécanique que la pensée humaine et la volonté politique des hommes ne puissent infléchir ni changer. Alors aujourd'hui, on se balade, donc, comme je l'indiquais, dans cette vallée, avec Mino Feita, il va nous raconter son parcours, sa vie, celle d'un immigré italien. On n'est pas loin de l'Italie, avec quelque chose qui a dû changer quand même depuis sa jeunesse et qui tient dans une phrase de Peter Sloterdijk, le philosophe allemand. Cette phrase est la suivante. Le fait central des temps modernes n'est pas que la Terre tourne autour du Soleil, mais que l'argent court autour de la Terre. C'est là-bas si j'y suis, c'est jusqu'à 16h sur France Inter.
Chômage au fond de la vallée, c'est là la vraie fatalité. Voici quand la nuit étoilée, un sans-emploi nous est donné. Séraphin de droit, il se nomme, il est encadré et respecté. Aujourd'hui, pauvre petit homme, voilà que tu es licencié. Quand la cloche sonne, sonne, c'est à l'armée du salut que se rassemblent les hommes. Les hommes qu'ont tout perdu, armée froide qui résonne, en haillons et peu vêtus. Plus de 3 millions en tonnes, le chant triste et monotone, c'est la chanson du chantu. Chômage au fond de la vallée, peu de familles sont épargnées. Voilà qu'après 19 années, le séraphin est remercié.
Monsieur Vaillant, on vous rencontre sur la place de Marna, devant la mairie. Il y a un petit marché qui est en train de se dérouler derrière. Et là, d'entrée, vous m'avez indiqué une maison.
La maison Danset, c'est ce qui reste de l'usine Danset. Il y avait l'habitation du patron. Et puis, au rez-de-chaussée, il y avait les bureaux. Voilà. Et puis, à gauche, c'était l'usine qui a disparu depuis une quinzaine d'années.
Elle a été remplacée par un petit casino et puis un taxiphone et une boulangerie.
Voilà un peu la situation avec Monsieur Feita, avec Minou Feita, qui va nous raconter comment le petit émigré italien qu'il était est devenu un professeur d'histoire et comment tout au long de sa vie il s'est intéressé à cette vallée. Mais c'est un parcours, un succès, je ne sais pas si c'est un mot qui plairait à un homme comme celui-là, mais en tout cas, c'est une histoire, et c'est une histoire qui mérite d'être racontée, parce que des histoires comme celle-là, on en trouve comparables, pas évidemment exactement la même, mais dans pas mal de coins de France, cette transition entre le monde rural et le monde industriel, l'industrialisation, les 30 glorieuses, l'après-guerre, et puis aujourd'hui, ces menaces extrêmement forte qui pèse sur une région comme celle-là, et on connaît les dégâts causés par ces fonds d'investissement et cette économie financiarisée sur l'économie française et évidemment sur les salariés. Quand on annonce 1300 emplois supprimés, c'est très souvent 1300 familles qui sont touchées, avec tous les emplois induits, toutes les activités économiques, parfois industrielles, induites dans ces suppressions. C'est donc beaucoup plus de 1300 personnes qui sont frappées par ce genre de plans sociaux, comme on dit, non sans hypocrisie. Et voilà ce qui menace aujourd'hui. Mais à tout cela, il y a une histoire qu'il nous raconte.
Alors, c'est votre Fiat Panda ? Vous êtes d'origine italienne, monsieur Feita ?
Oui. J'en suis parti la première fois en 1958. À l'époque, j'avais 14 ans. Donc j'ai travaillé pratiquement 8 mois en tant que clandestin, hein, ici à Cluses. J'ai travaillé chez un serrurier qui était installé au centre-ville. Quand on prenait la camionnette pour des chantiers extérieurs, eh bien on me cachait sous une couverture. J'étais derrière dans la camionnette avec les fenêtres, les ferrailles, les portails, et puis voilà, moi j'étais sous une couverture. Il ne fallait pas que l'on me voie. Bon, Mais ce que je gagnais servait à payer la pension à un membre de la famille qui m'hébergeait. Et donc j'en suis reparti parce que l'objectif commun à tous ceux qui partaient, c'était d'envoyer un peu de l'argent à ceux qui étaient restés en Italie. Alors en 61, la France et l'Italie passent des accords.
Qu'est-ce que vous faites en 61? Vous faites de l'horlogerie d'abord?
Oui, voilà, je fais de l'horlogerie et puis je m'aperçois de suite que OS sur les machines à tailler les roues et les pignons, ça paye moins bien que le décolletage.
Voilà, début de l'histoire de Mino Feita. Mais voyons une autre histoire qu'on peut mettre en écho, en lien ou en parallèle, même si évidemment les personnages a priori sont opposés, c'est l'histoire des patrons. Beaucoup de dans cette vallée, on a commencé à évoquer cela hier, sont d'anciens paysans. On nous a raconté comment on est passé de paysans à des occupations divers où on taillait des pignons pour l'horlogerie. Et puis après, peu à peu, on s'est industrialisé, on est passé au décolletage et ça a été une activité très très florissante, encore une fois, je le répète, menacée aujourd'hui. Voilà Gilbert Benet qui est aujourd'hui à la retraite, qui était patron d'une entreprise importante et qu'on va rencontrer à plusieurs moments de cette balade d'aujourd'hui pour essayer de comprendre la vie et le passé de cet endroit.
On va aller sur le premier site de création de l'entreprise, c'est-à-dire que mon grand-père, qui était ici d'une famille de 6 enfants, et il est orphelin à 6 ans, donc évidemment, pour survivre, pas de problème, c'était le travail en usine. Il a été d'abord en Suisse, où il y avait son frère qui travaillait déjà. Il est revenu travailler chez Carpano Ponce. Donc voilà, là, en face, ici, à la place de l'école, il y avait une entreprise qui faisait de l'horlogerie aussi. Donc il avait loué un établi, je crois que c'était 1,50 francs le mètre, quelque chose comme ça. Et le soir, après son travail, il allait percer ses fraises, les affûter, il les trempait. Bon, arrive la guerre de 14. Il n'a pas été sur le front, il a été mobilisé pour faire les pièces pour l'armement. 1917, il achète cette usine, qui était un théâtre, et il travaille pour la munition. Et là, ils n'étaient que 4 ou 5 dans la vallée à ce moment-là à faire ça.
Donc finalement, la guerre pour lui, ça a produit une croissance plus qu'un déclin de l'entreprise.
Ah, mais c'est une croissance. Puis il y a une chose, c'était premièrement, c'était des commandes ouvertes, c'est-à-dire que plus vous l'État achetait tout, plus vous produisiez, plus ils prenaient. Hein. Et puis, le gros intérêt, c'est que vous étiez toujours payé. Il n'y a pas d'impayé. Hein, et puis, il y avait quand même, je pense, peu de pression sur les prix parce qu'ils avaient besoin des pièces d'armement. Ils en consommaient le travail, ils rapportaient.
Donc pendant que nous, dans le Nord, on se prenait les bombes sur la figure.
Nous, on les fabriquait.
Et puis ouais. On gagnait de l'argent avec.
Et on gagnait, oui, ils ont gagné de l'argent.
Hein. Il y a autre chose, là, c'est qu'avec la guerre, il a appris un nouveau savoir-faire. Parce que avant-guerre, c'était de l'horlogerie. Pendant la guerre, il passe à des portes amorces. Ouais, c'est du décolletage, déjà.
Voilà. Il faut savoir que le décolletage, il a connu son essor avec la guerre de 14.
Donc la guerre a permis aussi à votre grand-père, mais disons à toute la région,
aux gens qui étaient là, ceux qui ont pu rester dans le coin et qui ont pu travailler,
de faire un saut technologique.
Voilà, exactement, c'est à peu près ça. Donc en 1930, il construit donc cette usine.
Elle est immense là.
Donc là-bas, il y avait à peu près 500-600 mètres carrés. Donc moi je suis rentré dans l'entreprise le 1er mars 62. Et en 64, à ce moment-là, on montait un étage sur l'usine, c'est-à-dire on doublait l'usine, on faisait les bureaux et on joignait les deux bâtiments là. Donc mon père, quand on a fait le truc, il m'a dit bon, on est tranquille pour 10 ans. Et puis en 67, on passe à peu près à 1600 mètres carrés.
Alors comment vous expliquez cette croissance là qui est... Bon, je ne sais pas si le chiffre d'affaires épousait la courbe du mètre carré.
Il faut savoir qu'à ce moment-là, on est dans ce qu'on appelle les 30 glorieuses du décolletage. Hein. Les boulangers arrêtent, ils se mettent à faire du décolletage parce que c'est une... Donc la première croissance, après la guerre de 14, vous avez l'électricité qui apparaît, le chemin de fer, l'automobile.
1936, vous avez la guerre d'Espagne.
Alors, dans l'après-guerre durant les Trente Glorieuses, c'est lié à la croissance de quel marché
À la reconstruction, et puis vous avez donc l'automobile qui se développe.
C'est quand il y a de l'armement, on travaille pour l'armement, on travaille pour le bâtiment, on travaille pour le vélo, on travaille pour l'automobile.
Après la guerre, on faisait des quilles.
Des quilles?
Oui, les soldats mettaient les quilles. Bah, quand on a la quille, vous êtes jeune, vous n'avez pas fait le régiment. Hein. Alors l'armement, c'est des hauts débats. Quand vous avez eu la guerre d'Algérie, l'armement, il a redémarré.
Mais ça, c'est les bonnes nouvelles quand il y a des guerres, alors par ici.
Oui, si on veut, mais quand on a fait une guerre, on ne trouve pas que c'est des bonnes nouvelles.
Hein. Oui, parce que vous l'avez faite, l'Algérie.
Moi, j'ai fait l'Algérie.
Décolteur de père en fils, cela peut paraître surprenant à notre époque. La continuité dans le développement de l'entreprise familiale, ce n'est pas un mythe. Monsieur Gaillard nous en apporte la preuve.
L'affaire que vous allez voir a été créée par mon père en 1922.
Voilà, les colteurs de père en fils, avec tous les profits que la guerre engendre. Hein. Il y a des gens qui sont contre la guerre, c'est ceux qui la font qui sont contre, ou ceux qui la subissent. Bon, enfin, sinon, on nous l'avait dit aux États-Unis, hein, quelqu'un nous avait dit, dans la guerre, tout est bon, hein, la destruction comme la reconstruction, c'est excellent, ça permet des sauts technologiques, à condition que vous soyez évidemment pas sous les bombes. Il faut être assez malin pour pas y être, mais sinon, ça rapporte bien la guerre, l'industrie de l'armement, là aussi il y a des retombées, et voilà. Donc vous entendez Gilbert Bénet, un brave type, le ton sympathique du gars qui a de l'humanisme, qui est patron, mais enfin, qui est, voilà, ça s'appelle un patron paternaliste. Pourquoi est-ce que notre guide du jour, monsieur Feita, Mino Feita, cet immigré italien, lui n'est pas devenu un patron comme ça? Question.
Et vous en voyant ce boom du décolletage, ça vous a pas tenté de devenir à votre tour artisan, entrepreneur?
Non. Non, moi j'avais un seul projet, j'avais une seule idée, mais têtu. Je voulais être prof.
Prof?
Ouais, je voulais être enseignant. Pour moi, c'était le plus beau métier, et l'ayant exercé pendant 25 ans, je maintiens aujourd'hui que c'est sans doute, avec la naissance de mes enfants, ce qui a donné du sens à ma vie.
Vous ne regrettez pas de ne pas avoir lancé votre boîte? Parce que si vous aviez lancé votre boîte, vous auriez aujourd'hui une grande entreprise, vous auriez des salariés, vous auriez une piscine chez vous. Là, vous roulez en Fiat Panda verte. Vous auriez un beau 4x4 pour monter vers le mall.
Ben, c'est pas plus sympa avec la Panda. Bon, c'est peut-être inconfortable, mais c'est une véritable chèvre. Elle ne coûte pas cher. Et puis moi, je pense que bon.
Vous voyez, la Panda, elle a failli caler, là.
L'idée de créer ma boîte ne m'a jamais effleuré. Comment partager, je dirais, des convictions avec d'autres dans les ateliers et du jour au lendemain passer de l'autre côté de la barrière?
Alors, comment elles vous sont venues, ces idées malsaines?
J'ai travaillé en Italie, vous savez. J'ai travaillé dans la parfumerie de référence d'une ville de 250 000 habitants. C'est-à-dire que j'ai vu défiler devant moi une clientèle qui pouvait dépenser pour ses eaux de Cologne, ses cosmétiques, 3 à 4 fois de ce que je gagnais en un mois. Et lorsque vous voyez que ces gens, ensuite, du haut des tribunes ou des pupitres, vous font des discours sur la soumission, sur l'acceptation du sort, ou sur l'inégalité naturelle entre les hommes, ma foi, vous forgez un bagage idéologique.
Donc c'est de l'influence du parfum sur les idées politiques, là.
Alors, pourquoi pas. Et là, on va croiser un 4x4, mais on va aussi les passer en vélo. Comme quoi, vous voyez, la Panda, elle a ses avantages. Lorsque j'arrive ici, je passe, je dirais, de l'apuanteur des parfums à l'odeur des huiles de décolletage. Je dis bien, hein, de l'apuanteur, parce que au bout de 2 ans et demi, vous pouvez en avoir assez de sentir, je dirais, tous les arômes sur vos mains, sur vos bras, et vous passez à ces odeurs viriles de l'huile de décapant, de solvant. Et puis,
je découvre quelque chose, et comme moi, beaucoup d'autres, je découvre les rapports paternalistes. Mais sur le coup, je n'y vois pas malice, parce que le patron qui vient vous... qui est habillé comme vous, qui a une blouse bleue, qui s'est levé avant vous, qui vient vous dire bonjour, qui vous serre la main, qui vous demande comment vous allez, eh bien, vous retrouvez autour de ce contact une valorisation, une reconnaissance. Vous existez. Alors que vous sortez d'un système, dans la parfumerie où je travaillais, c'était vraiment la bourgeoisie. Et donc, moi, je ne comptais pratiquement pour rien. Je n'existais pas. Et j'arrive ici, et au contact avec ces patrons, j'ai l'impression d'exister à nouveau. Moi, j'interprète ça comme la chute de barrières sociales. Ces petits patrons chez lesquels vous travaillez, ce sont eux-mêmes d'anciens ouvriers ou des gens d'origine paysanne, qu'ensuite certains se soient rendus compte que cela empêchait la revendication.
Vous ne déconcentrez pas en parlant, parce qu'à côté de nous, il y a quand même des ravins.
Mais attendez, là, on travaille, on roule sur du terrain sec. Il faut venir ici l'hiver, quand il y a de la neige, que la chasse-neige n'est pas passée.
Alors là, on se tait dans la voiture, la Panda. Et donc, vous découvrez ces rapports paternalistes dans un premier temps, vous les regardez positivement, c'est presque un rapport égalitaire. Et ensuite, vous évoluez. Qu'est-ce qui vous fait réfléchir à ces rapports paternalistes ?
Eh bien, effectivement, que ces rapports paternalistes empêchent, freinent une prise de conscience individuelle et collective.
Alors, là, on garde la Panda entre tous les 4x4 en haut du mol.
Vous voyez, on en a pour 5 à 10 minutes à marcher tranquillement à pied.
J'ai réfléchi un peu à l'histoire du paternalisme. Ce même patron, sympa, aux apparences sympas, il arrive à vous confier, j'ai ses propres difficultés, en disant, ben, tu vois, moi aussi, je suis embêté, etc. Donc ça brouille quand même les rapports de classe. Et les rapports de classe, que vous vouliez ou non, ils existent. Parce que le jour où la boîte elle ferme, vous, en tant que salarié, vous n'avez plus rien. Mais le patron sympa, lui, n'est pas à la rue. Même si sa boîte elle ferme, il a su prendre les précautions, il lui reste quelque chose.
Alors là, il y a un fil sur le chemin. On passe par-dessus ?
On passe par-dessus.
Le paternalisme n'a pas monopolisé pendant toutes ces années ma pensée. Ma pensée était plutôt quand c'est que je vais sortir de ça pour faire ce que j'ai envie de faire. Toujours 68, je rencontre des gens et d'autres ouvriers et ouvrières qui ont les mêmes préoccupations que moi. Sortir de l'usine ou sortir du décolletage. Je rencontre deux jeunes filles indochinoises, un lecteur de Bernanos, des écorchés quand même, hein, un anarchiste qui, quelques mois après mai 68, crée sa propre boîte de décolletage, et je rencontre des enseignants. Et je découvre que les salariés peuvent passer des équivalences du baccalauréat. Et voilà que la troisième fois, je décroche l'équivalence du bac. Je crois que j'ai de la peine à transmettre ce qu'a pu représenter pour moi le fait de m'asseoir une fois, je me revois, dans cette salle de fac à Chambéry. Je crois que je pourrais rien vous dire de ce que j'ai entendu ce jour-là. Je crois que pendant une heure, j'appréciais le fait d'être là. Et j'entame mes études, mais tout en continuant à travailler à l'usine. Donc je travaille le jour et j'étudie la nuit. Et j'arrive jusqu'à la licence. Je demande la bourse 3 ans de suite. Et 3 ans de suite, le même fonctionnaire refuse de m'accorder la bourse. Au motif que, qu'est-ce que peut faire ce décolleteur avec des études d'histoire ? Bonjour !
Alors on va passer par là, on va prendre ce petit raccourci. Ça nous évitera de faire... Là,
on va tourner plus ça monte plus sec, là.
Je passe le CAPES et je l'obtiens. Et je suis nommé à Cluses, au lycée Charles Poncet, l'école d'Horloge. Voilà.
L'école d'horlogerie.
L'école d'horlogerie, oui. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de cet atelier de serrurier chez lequel j'arrive à 14 ans. Cet atelier de serrurier était derrière le lycée. Et quand je suis venu à 14 ans, je rêvais d'être dans cette école. Alors, ma foi, 40 et quelques années après, j'y mets les pieds en tant qu'enseignant. J'ai fait le tour de la question.
Donc là, on est presque arrivé en haut du mol. On passe derrière un chalet.
Regardez, là, on en a...
Là, en face, c'est quoi le...
Ah, bah là, on a le Mont Blanc.
Ah, c'est le Mont Blanc, juste en face.
Ah oui, là. En plus, il y a un peu de neige fraîchement tombée. Ça fait fourmiller les jambes. Bientôt, on va pouvoir chausser. Et c'est encore une belle saison qui s'annonce. Parce qu'il n'y a pas que le décolletage. Voilà.
Il n'y a pas que le décolletage, bien sûr. Il suffit de monter. Et puis, ben, le décolletage, c'est en bas, c'est dans la vallée. Et puis là, on monte, ben, c'est les montagnes en ce moment, évidemment. C'est formidable, hein. Ces paysages. Alors, voilà le parcours de Mino Feita. On va revenir encore vers lui pour qu'il nous raconte la suite de son histoire. On a envie d'aimer ces histoires-là, et on les aime, ces histoires-là, hein, ces histoires de petits qui, grâce aux études, arrivent, etc. C'est formidable. Mais il y a d'autres moyens d'arriver. Autre success story, comme on dit, celle de Gilbert Benet, ce patron, l'un de ces patrons que Mino Feita vient de décrire.
Je suis entré au conseil municipal et on a fait une zone industrielle où je vais vous emmener. Et donc j'ai créé la zone industrielle, j'ai pris un morceau de 4000 m² dedans pour assurer mon développement futur.
Et il y avait combien de salariés chez vous à ce moment-là?
Le plus fort que je suis monté, on était 47.
Et vous avez jamais eu à licencier quelqu'un?
Ah si, ça c'était ce que je considère, si vous voulez, l'échec que j'ai eu. En 97, oui, c'est rare, mon client principal, et je faisais 3 millions de chiffre d'affaires avec lui.
Donc vous avez perdu 25% de votre chiffre.
Voilà. Donc, j'ai pu tenir le coup avec mes salariés pendant une année. Hein, et puis, au bout d'une année, j'ai dû licencier 3 salariés. Hein. Alors, il y en a un, bon, c'était pas grave, il avait 59 ans. Et puis, un autre un peu plus âgé. Et puis, bon, bah... On a regardé que ça pénalise le moins, on a licencié une célibataire, quoi, parce qu'on a gardé les gens qui avaient des enfants. Alors, au cours de ce truc-là, bon, moi j'ai baissé mon salaire, mais j'ai pas baissé le salaire de mes ouvriers. Puis on a fait face, on s'est remonté.
Il y a eu des nuits blanches avant. Il y a eu des nuits blanches avant de licencier ces...
Ah oui, ouais. Donc là, j'avais acheté ici. D'ailleurs, ça reste encore Béné, donc, et puis le nom de la boîte qui m'a racheté, Algie.
Et vous, pour racheter votre entreprise, vous avez trouvé un investisseur, un fonds de pension?
Non, pas un fonds de pension. J'ai revendu à un Français et une entreprise familiale de la vallée, quoi.
Et, alors, c'est volontaire d'avoir trouvé quelqu'un du coin pour reprendre votre entreprise?
Oui. Puis moi, j'ai baissé le prix de ma boîte pour qu'on reprenne tout le personnel. Donc voilà, on a refait le tour, on retombe, vous voyez, là, il y a de nouveau une usine de décolletage.
Vous, quand vous avez dû licencier, vous avez passé des nuits blanches, vous dites.
Oui.
Mais vous comprenez que, enfin, dans la nouvelle économie, il y ait moins d'état d'âme du côté des patrons?
Ben, c'est obligé qu'il y ait moins d'état d'âme. Vous avez des gens qui viennent de l'extérieur. Bon, nous, pourquoi ça nous stressait quand on licenciait quelqu'un? Parce que c'était des gars avec qui on avait travaillé 10 ou 15 ans.
Alors là, on rentre chez vous?
Oui, on rentre chez moi. Oui, on a fait le tour.
Il y a le portail électrique.
Alors.
Nous, à World Company, on s'en fout des frontières. On fabrique des trucs partout, pas cher. Avec des ouvriers partout, pas cher. Bon. Mm-hmm. Seulement, on fabrique aussi des chômeurs, partout. Et très cher. Et pour ça, Qui c'est qui se fait engueuler?
Ben, vous.
Non, les hommes politiques, c'est eux qui prennent, pas nous. C'est pour ça qu'il faut les garder.
Eh oui, je sais pas de quand date ce petit sketch des guignols, mais ça date pas d'hier. Et franchement, quitte à être un peu décourageant, je crois pas que ça ait enrayé en quoi que ce soit le mouvement de l'histoire économique, de l'horreur économique qui apparaît de plus en plus dans toute sa cruauté et qui menace cette vallée où nous baladons encore quelques instants avec Mino Feita.
Alors là, au fur et à mesure qu'on approche, il se découvre toute la vallée. Voilà. L'arbre qui a... Enfin, le glacier qui a précédé, qui a opéré le passage. On appelle ça des passages héroïques. Lorsque les glaciers franchissent les montagnes et se créent des passages. Voilà, c'est la Cluse, ici, là-bas, en bas. Face à nous, on la voit très très bien. Hein, les montagnes, on dirait qu'elles se touchent. Ici, je dirais que tout se confond. L'habitat avec l'atelier, l'ouvrier avec le patron, la montagne et l'industrie sans fumée. Voilà, vous êtes dans une vallée vraiment atypique. Et ce serait dommage qu'elle disparaisse.
L'industrie sans fumée?
Ah oui. Ben non, il n'y a pas de fumée. Le décolletage ne fait pas de fumée.
Donc là, dans toute la vallée, on n'aperçoit pas de cheminée qui fume?
Ben non, vous n'en voyez pas. Sauf les incinérateurs, des ordures ménagères.
Et vous disiez, il ne faudrait pas que cette vallée disparaisse?
Ah ben non. Cette vallée a été capable, grâce au travail qu'elle a fourni, elle a permis de digérer l'arrivée de milliers d'individus venus de tous les horizons. Eh bien, tout ça parce que l'activité de cette vallée a permis de donner à chacun du travail et souvent aussi sa chance. Donc moi, je suis attaché, comme tant d'autres, à ce que cette vallée continue à exister.
Pourquoi, il y aurait un risque qu'elle disparaisse?
Ah ben oui. Les risques, ce sont les délocalisations. Les risques, ce sont les fonds de pension, qui n'en ont rien à faire de l'avenir des gens. Donc les grandes entreprises ici, bah, elles sont plus que menacées. Certaines ont disparu. Par exemple, vous avez vu Autocam? Le Gifre a disparu. Électrochimie et électrométallurgie. Il y a quelques semaines, il y avait encore une journée du souvenir, on va l'appeler comme ça.
Ils vont ouvrir un musée alors là-bas? Parce qu'il y a plein de musées qui ouvrent maintenant. Il y a le musée de la serrurerie, le musée
oui,
de...
Ça ressemblait à un musée. C'était une exposition de documents, des photos, des gens qui ont travaillé à l'usine, qui sont venus témoigner. Puis bon, le soir, il y a eu un repas et un bal. Bon.
C'est le 11 novembre de l'industrie, quoi.
C'était un peu le 11 novembre de l'industrie. Mais vous savez, moi, j'ai réagi quand à Cluse, on a créé le musée de l'horlogerie. Je me dis qu'on crée des musées quand on commence à devenir malade. Donc, Annecy, il y avait 4000 salariés qui travaillaient dans le textile. L'usine a disparu. Les papeteries ont disparu.
Est-ce que finalement, enfin avec cette économie globalisée, des fonds d'investissement qui sont un peu sans visage, où on s'en fiche un peu si les emplois se trouvent ici, se trouvent en Chine, se trouvent en Tchéquie, est-ce qu'on n'en viendrait pas à regretter le paternalisme que vous dénonciez tout à l'heure, où là, finalement, il y avait un visage qui fait que, bon, ben, malgré tout, on était attaché à son outil de travail et on ne faisait pas n'importe quoi, même pour avoir davantage de profit?
Tout à l'heure, je vous ai dit... mes préoccupations, je dirais, autour du paternalisme. Et je vous ai dit aussi qu'à l'heure actuelle, ce n'était pas le problème numéro un. Donc je maintiens, et effectivement, moi je rencontre des gens, mais c'est des syndicalistes, regrettés de ne plus avoir un patron visible. Un patron qui habite en haut de l'atelier ou qui est dans son bureau, que l'on va voir et avec lequel on va discuter et que l'on va parfois tutoyer.
Et ben voilà, merci à tous. C'était un reportage de François Ruffin. Merci à Gilles Perret, Nino Feita, Jean Bourqui, Gilbert Benet, Madame de l'Alba et aux décolteurs de la vallée de l'Arve.
Encore une fois, je vous rappelle, le documentaire de Gilles Perret, Ma mondialisation, sera diffusé jeudi à 22h35 sur Arte. Et puis, concernant Bella Ciao, une pétition est disponible sur le site internet de Bella Ciao, www.bellaciao.org, pour soutenir la liberté d'expression. 23 000 signatures déjà ont été recueillies, ce qui est pas mal du tout. Et puis, au début de ce numéro de la Basse Justice, vous avez entendu des extraits du film Héros fragiles d'Emilio Pacul, un documentaire qui retrace le destin de Salvador Allende et de ses collaborateurs d'après Antoine Chao. Il faut absolument que vous alliez voir ça. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission La Basse, j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur labas.org, la-bas.org. La technique aujourd'hui, Patrick Henry et Sophie Moreno, Yann Chouka et Koyen Guyen ont réalisé cette émission, et c'est Charlotte Perry qui est à la fois l'assistante et le chef du répondeur de La Basse, j'y suis, dont le numéro est le 01 56 40 37 37. Réclame.